Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission spéciale. Aujourd'hui, nous allons vous présenter « Vous n'aurez pas les enfants », un livre de Valérie Porteret, paru en 2020.
Tout de suite, nous commençons avec l'évocation du sauvetage de Vénissieux.
Le 26 août 1942, le gouvernement de Vichy ordonne l'arrestation de juifs étrangers dans la région de Lyon. Au total, 1016 juifs sont arrêtés et envoyés dans le camp de Vénissieux. Dans la nuit du 28 au 29 août 1942, les parents sont convaincus par des membres d'une œuvre sociale d'abandonner leurs enfants et de les confier à l'Amitié chrétienne. 108 enfants seront exfiltrés et 105 seront sauvés, puis placé dans une famille d'accueil. Le camp de Vénissieux se situe dans la banlieue de Lyon. C'est un endroit stratégique. Il avait déjà été choisi pour sa proximité avec la gare et un éloignement de la ville pour plus de discrétion.
À leur arrivée au camp, les juifs doivent passer au criblage qui détermine leur cas, le déplacement à Auschwitz ou s'ils rentrent chez eux. Les sauveteurs ont dû faire preuve de courage, de solidarité et de prudence. Les enfants aussi ont dû faire preuve de courage et de discrétion pour que tout se déroule le mieux possible. Le cardinal Gerlier est l'un des principaux sauveteurs. Il a tout organisé, il a fait preuve de bon sens, de cœur et d'empathie.
C'était Ludivine et Quentin, merci à vous. Faisons maintenant le portrait du cardinal Gerlier.
Nom Gerlier.
Prénom Pierre.
Naissance 14 janvier 1880 à Versailles.
Mort 17 janvier 1965 dans le 5e arrondissement de Lyon à l'âge de 85 ans.
Profession cardinal.
Rôle lors de cet événement. Chef des opérations pour sauver les enfants du camp de Vénissieux, il a profité de son statut pour sauver le plus de personnes possible. Il était intouchable et connaissait les plus grands responsables de l'État. Son rôle est très important pour le sauvetage, il est à l'origine du projet et l'a mené à bien.
Organiser des filières de sauvetage pour les juifs en danger et de ceux de son camp, ouvrir des centres de refuge ainsi que des colonies et diriger ces dangereuses opérations. Voilà ce qu'a fait Gerlier. Alors qu'il n'en était pas obligé, il a quand même décidé de sauver ses enfants en détresse. Il a fait preuve de courage et de bon sens. Il a réussi sa mission. En août 1942, 105 enfants du camp de Vénissieux ont été sauvés. Il a ressenti tellement de haine et de honte envers les nazis ainsi qu'envers le gouvernement de son pays qu'il a décidé de changer le cours de l'histoire et de faire bouger les choses.
C'était le portrait du cardinal Gerlier par Périne et Juliette. Maintenant, nous allons passer à un autre résistant, l'abbé Alexandre Glasberg.
En 1940, l'abbé Alexandre Glasberg a 40 ans. C'est un homme massif, une force de la nature qui s'imposait de manière ferme et diplomatique. C'est un juif converti au christianisme. En octobre 1935, l'abbé rencontre le jésuiste Pierre Chalier. Ces deux hommes ont les mêmes préoccupations et sont prêts à donner leur vie pour celle des autres. L'altruisme est leur raison de vivre. En 1941, Glasberg accueille discrètement un grand nombre de juifs dans une église pour leur porter secours. Empathique, il crée une association, l'Amitié chrétienne, pour venir en aide à beaucoup de personnes.
À Vénissieux, l'abbé Glasberg, conscient de ce qu'il se passe, a fait jouer toutes les exemptions possibles pour empêcher la déportation de plusieurs juifs. Une stratégie qui a permis de sauver de nombreuses vies, dont celle de 108 enfants. Lors de la rafle du 26 août à Lyon, les juifs ont été emmenés de force au camp de Vénissieux. Glasberg a été membre d'une commission qui a fait libérer certains juifs.
Merci à Elias et Andy. Passons maintenant au portrait de Lili Tiger.
Lili Tiger, 21 ans, haineuse de ce qu'il se passe en Allemagne 1942, tire la langue à un soldat nazi lors d'une manifestation organisée par les étudiants et les lycéens devant la flamme du soldat inconnu. Un acte qui va lui valoir la prison durant 3 mois. Cette femme a eu énormément de courage de faire cela. Malgré le fait que son action peut paraître enfantine, elle a osé s'opposer au régime nazi alors qu'elle aurait pu être déportée si elle l'avait fait quelques mois plus tard. Elle a réussi à exprimer sa haine envers les nazis.
C'était Evan, continuons avec les actes déterminants de Jean-Marie Soutou.
Jean-Marie Soutou, secrétaire de Gilbert le Sage, s'introduit dans un camp à l'aide d'une Citroën noire qui détourne le regard des gardes, ce qui permet à certains juifs de fuir. Il vole ensuite le sac de marché et part immédiatement du camp. Après avoir garé sa voiture non loin du camp, il ouvre le sac et garde un bout de papier qui s'apparente à une liste d'exemptions qui lui semble incomplète. Pendant ce temps, Glasberg, qui agit avec Jean-Marie Soutou, fait semblant d'aider à retrouver le sac de marché. Après avoir lu cette liste, Jean-Marie retourne au camp et rend le sac à Glasberg qu'il donne immédiatement à marché.
Merci Mathis. À présent, nous allons parler de Gilbert le Sage.
Gilbert le Sage est un agent double. Il travaille comme chef du service social des étrangers de Vichy. Mais en réalité, c'est un résistant infiltré de l'administration. Gilbert le Sage a fait de nombreuses bonnes actions.
Voici quelques-unes de ses actions. Il a fait rentrer des associations caritatives dans le camp comme la Croix-Rouge. Il a transmis la date de la Grande Rafle afin de sauver le maximum de personnes. Gilbert le Sage a réalisé un acte courageux car il a aidé des personnes à s'échapper.
C'était Abdelkoudus et Tom, merci à vous. Le sauvetage des enfants de Vénissieux n'aurait pas été possible sans l'action de Jean Adam, dont voici le portrait.
Jean Adam est né le 22 juillet 1918. En 1942, il sauve des vies au camp de Vénissieux. Une des personnes qu'il a sauvées a été Justus. Justus est un jeune adulte qui a simulé une crise de péritonite afin d'être évacué du camp de Vénissieux. Jean Adam, qui était donc à l'hôpital et qui savait le plan qu'organisait Justus, l'a aidé en diagnostiquant cette fausse maladie. Jean Adam a fait preuve d'humanité, de solidarité et de bonne volonté en faisant le choix de sauver tous ces gens.
Le 23 décembre 1943, il est tabassé et poignardé par des membres de la milice MNAT qui considéraient les résistants comme des terroristes menaçant l'ordre de Vichy. Trouvé presque mourant, il a survécu à ses blessures. Une fois rétabli, il s'engage dans un maquis de l'Ain où il exerce comme médecin. Il reprend ses études à la Libération en pneumologie. Le 13 mai 1950, il épouse Christiane Circo, avec laquelle il va avoir deux fils. Ironie de l'histoire, il est nommé médecin directeur de pneumologie de l'hôpital de Vichy en 1959. Il a sauvé 26 enfants qui avaient tenté de se suicider par pendaison, empoisonnement ou section des veines du poignet.
Merci Perla et Ambre. Poursuivons avec l'histoire incroyable du journaliste Varian Fry.
Varian Fry est un journaliste américain courageux qui a su faire preuve de sang-froid et surtout d'humanité. En 1942, il fait partie d'une association américaine et il est chargé, de ce fait, d'organiser l'évasion des intellectuels juifs vers les États-Unis. Ce genre d'opération ne laisse pas le droit à l'erreur, car les risques sont grands. Varian Fry quitte l'Amérique pour aller en France, à Marseille. Il est écœuré par ce qu'il se passe, il a un objectif en tête, sauver le maximum de vies.
Il a une liste de 200 personnes à protéger et à évacuer. Varian recrute Justus, qui transporte les faux papiers. En août 1941, Varian est prié de quitter le territoire français par le gouvernement de Vichy. Il a permis de sauver entre 2000 et 4000 juifs et militants chinois en les aidant à partir d'Europe. Varian Fry est un véritable héros, il a écouté son cœur. Cela montre que même dans l'horreur du monde, l'espoir existe.
Oui, gardons espoir. Merci à vous, Roxane et Meryl. Passons à une autre grande résistante, Elisabeth Hirsch.
Elisabeth Hirsch est née le 5 janvier 1913 à Sighișoara, en Transylvanie. Émigrée en France en 1930, elle est assistante sociale de formation. Depuis 1934, elle travaille au service social des œuvres de la baronne Germaine de Rothschild, en particulier au patronage de la rue Julien Lacroix et au dispensaire non-juif de Saint-Ouen. Elle est morte le 11 mars 1996 à La Verrière.
Elisabeth Hirsch est âgée de 29 ans lors du sauvetage de Vénissieux. En décembre 1942, elle aide à libérer des enfants avec leur famille. Elle soutient les familles juives et prend en charge des enfants et des mères. Elle accompagne une mère hongroise avec ses quatre filles dans un bureau de l'intendant. Elle fait signer les actes d'abandon par les mères. Le courage d'Elisabeth Hirsch est qualifié d'exemplaire. Elle encadre un groupe d'enfants avec Madeleine et Lily. Les enfants se nomment Anna, Elin et Horst. Elisabeth Hirsch démissionne de l'OSE en fin d'été 1942. Aide au placement des petits et crée des liens avec la pouponnière de l'association. Elle est recherchée par les Allemands et l'OSE lui demande qu'elle cesse son activité. Elle conduit finalement les enfants en Israël par l'Espagne.
Elisabeth Hirsch a fait preuve d'humanité car elle a bien montré qu'elle était humaine avec tout le monde.
C'était Manel et Tiffen, merci à vous. Enfin parlons des enfants de Vénissieux avec les portraits de trois d'entre eux.
Justus est un jeune de 20 ans qui a perdu ses parents. Il habite à Grenoble quand, un matin, il entend des coups frapper à la porte. Il a été amené au camp de Vénissieux le 26 août 1942 avec beaucoup d'autres enfants malheureux. Durant les nuits du 28 et 29 août 1942, lui et 104 autres enfants ont été sauvés grâce à de nombreux sauveteurs courageux comme l'abbé Glasbert, le père Chaillet, Gilbert le Sage et tant d'autres. Ils ont réussi à convaincre leurs parents de les abandonner pour qu'ils soient adoptés par l'association de l'amitié chrétienne et pour qu'ils soient ensuite cachés dans des familles de la région lyonnaise.
Lotte a aussi été sauvée en étant intégrée dans l'équipe des assistantes sociales car elle faisait plus grande que son âge. Rachel a également été sauvée. Son père était coiffeur et au moment de se séparer, il lui a donné un violon en lui disant de toujours le garder avec elle. C'est ce qu'elle a fait et au moins, dans les moments les plus difficiles, elle pouvait penser à son père et à sa famille.
Merci Yacine, merci Mathias. Pour conclure notre émission, voici une lettre d'accusation imaginée comme une lettre écrite par des écrivaines résistantes.
J'accuse les troupes allemandes d'avoir envahi la Belgique le 10 mai 1940.
J'accuse Pierre Laval d'avoir demandé les services de la police française pour déclencher de grandes opérations d'arrestation des juifs étrangers et d'avoir offert les services de l'appareil policier et administratif français aux nazis.
J'accuse René Bousquet de s'être engagé à livrer également les juifs étrangers de la zone non occupée.
J'accuse le garde champêtre d'Alba la Romaine d'avoir rassemblé les juifs étrangers du village pour la grande rafle le 26 août 1942.
J'accuse Alexandre Angéli d'avoir exécuté l'ordre venu de René Bousquet d'assurer le bon déroulement de la livraison des juifs étrangers sur le territoire des 10 départements dont il a la charge.
J'accuse Lucien Marché, intendant de police, d'avoir secondé Alexandre Angéli dans son opération secrète.
J'accuse Werner Knaps et Klaus Barbie d'avoir traqué avec obsession les juifs.
J'accuse la milice d'avoir abattu en 1944 un jeune russe résistant, David Donoff.
J'accuse les dirigeants du camp de Rivesaltes d'avoir prié Charles Edermann de quitter le camp, le suspectant d'aider les juifs. J'accuse toutes ces personnes d'avoir agi contre l'humanité, d'avoir sali les valeurs de la République qui sont liberté, que n'ont pas eu les juifs enfermés dans les camps, égalité, que n'ont pas eu les
les Juifs en se faisant arrêter et fraternité qui perdu son sens quand les Juifs se sont fait dénoncer par leurs voisins, les connaissant depuis tant d'années.
J'accuse encore une fois la faiblesse d'esprit dont ont fait preuve les personnes exécutant les ordres venus d'en haut, sans même se poser de questions, et la lâcheté dont le gouvernement a fait preuve en arrêtant des personnes innocentes, et en particulier des enfants. Enfants naïfs, enfants sans défense, enfants faisant confiance à la France.
C'était Lia et Maëlys. Pour clore cette émission, nous terminons avec une lettre ouverte nommée « Brin d'humanité dans l'ombre de la résistance ».
Honorons aujourd'hui les femmes et les hommes qui, dans le contexte de la résistance au nazisme, ont démontré une profonde humanité face à l'antisémitisme. Leurs actions, qu'elles aient été modestes ou remarquables, incarnent un cœur altruiste, refusant de succomber à la haine et à la discrimination. Ces résistants, symboles du bon sens et de la bonne volonté, ont choisi de faire leur boulot d'être humain, dans un climat politique où des valeurs fondamentales ont été bafouées. Ils ont été confrontés à un gouvernement dont les choix étaient en contradiction avec les droits humains, mais ils ont persisté dans leur résistance, insensibles au coup, sensibles à la honte et au dégoût de leur propre pays.
La solidarité et la prudence de ces individus ont eu un impact tangible, sauvant par exemple des centaines d'enfants juifs. Leur conscience a guidé des actions considérées, souvent comme impossibles, témoignant à la capacité remarquable de l'humanité à contrer l'inhumanité, même dans les moments les plus sombres. Remercions-les pour avoir assuré un avenir meilleur en risquant leur vie. Leur courage, leur empathie ont démontré qu'il existe encore un brin d'humanité dans un monde parfois chaotique. En reconnaissant la valeur de leur contribution, nous sommes inspirés à perpétuer ces principes universels de solidarité, de courage et de compassion pour construire collectivement un monde plus équitable et bienveillant.
C'était Alexis Maïlys.
Merci à tous les élèves ayant participé à ce projet. Nous sommes les 3e UT du collège François Raspail. C'est la fin de notre émission spéciale sur le livre « Vous n'aurez pas les enfants ». Au revoir et à bientôt.